18. Voilà, donc la nullité aussi peut être dans la forme du mariage, lorsque ça n'a pas été validement suivi. Et dans ce cas, dans les cas de nullité, en fait, on considère que le mariage n'a jamais existé. Alors ça pose toujours des questions un peu concrètes, notamment lorsqu'il y a des enfants qui sont issus d'une union qui peut être reconnue comme nulle, ça ne remet pas du tout en question, ni la bonté des enfants, ni quoi que ce soit. Et, on voit par exemple dans un des scandales actuels, c'est les enfants nés par GPA en Ukraine qui sont dans des caves, et alors on s'apitoie sur le sort de ces enfants, ou surtout on s'apitoie sur le sort de leurs parents qui devraient venir les chercher et qui ne peuvent pas. Ces enfants, ils sont là. Voilà, donc ils ont tout à fait leur dignité, le droit au baptême aussi, et tout ça. S'ils ont des conditions qui leur permettent de développer leur vie chrétienne. Donc, mais c'est évident que c'est une question concrète qui rend difficile aussi la reconnaissance de cette nullité, notamment pour les personnes, enfin, pas tellement du côté du juriste, j'allais dire, mais plus du côté du pasteur, quoi. Voilà, et on instruit vraiment un procès pour comprendre si véritablement il y avait un défaut lors de la célébration du mariage. Et puis, il peut y avoir des cas de séparation des conjoints qui sont retenus par l'Église. Alors, un mariage ratifié et consommé est indissoluble, mais un mariage non consommé, même si l'autre partie refuse, l'Église peut dissoudre le mariage qui n'est pas accompli. Alors là, pour le coup, on le dissout parce qu'il était quand même ratifié, mais il n'est pas consommé. Et c'est en application d'un principe simple, la relation charnelle est la manifestation naturelle de l'union des conjoints dans le mariage. Donc s'il n'y a pas de relation charnelle, l'union des époux n'est pas scellée, n'est pas accomplie. Vous savez que lorsque deux personnes non baptisées se marient, ce mariage est reconnu comme tout à fait valide de la part de l'Église. Je prends le cas de Pierre et Louise, qui se sont pointés au presbytère de la paroisse quand j'étais dans une autre paroisse, avec leur petite fille. Qui était très gentil, et donc je leur dis « Vous venez pour un baptême ?»« Oui, tout à fait, alors vous m'intéressez à la petite fille, qui devait avoir un an et demi, un truc comme ça. » Et ils me disent « Non, c'est pas pour elle, c'est pour nous. » Et donc les deux étaient mariés, n'étaient pas baptisés, avaient fait l'un et l'autre un petit peu indépendamment, puis de manière ensuite simultanée, ils avaient approfondi ça ensemble dans leur discussion, un chemin vers le baptême, et je leur ai demandé le baptême pour tous les deux. Et donc, ils ont préparé leur baptême, ils ont été baptisés dans une autre paroisse parce qu'ils ont déménagé entre-temps. Et dans la préparation de baptême, je leur ai dit, ben voilà, en fait, votre baptême va vous marier sacramentellement, va élever de facto le mariage naturel au rang de sacrement. Donc, d'abord, vous gagnez 180 euros parce que l'offrande de mariage, vous n'avez pas la versée. C'est pas ça surtout. C'est que et en fait ce que j'ai trouvé, et je leur ai dit, il arrive parfois qu'on fasse une petite cérémonie quand même complémentaire, etc. Et ils m'ont dit mais et je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont dit nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre que maintenant on est baptisé donc marié. On croit que la grâce est en nous. Il n'y a pas besoin de rajouter du décorum. Et c'est très édifiant parce qu'un petit truc en plus, ça l'aurait bien signifié aussi. Mais voilà. Donc un mariage naturel existe. Lorsque, dans un couple de non-baptisés, seulement l'un des deux se convertit, il peut y avoir rupture du mariage naturel si la partie non-baptisée s'oppose fermement au mode de vie chrétienne, au mode de vie chrétien de sa moitié. Et l'initiative de la séparation doit, dans ce cas, venir de la part de la partie non baptisée. Voilà. En disant, moi, je ne supporterai pas de vivre avec une bonne sœur pour la fin de mes jours. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir parfois des séparations comme ça qui sont prononcées. De la même manière, si quelqu'un qui est dans un pays où on accepte la polygamie se fait baptiser, évidemment, au moment du baptême, il n'est invité à ne garder que la première femme, et voilà, et à continuer à subvenir aux besoins, évidemment, des autres épouses avec, avec leurs enfants. Voilà. Mais n'étant marié, évidemment, qu'avec la première. Voilà, je m'arrête là pour les cas de séparation qui viennent un petit peu comme, simplement des petites illustrations. Il peut y avoir aussi des séparations avec consentement mutuel que l'Église reconnaît pendant une période pour lorsqu'il y a une trop grande difficulté à vivre la vérité du mariage, pour des questions de dissension parfois, ou des questions un peu problématique, et l'Église autorise tout à fait à vivre séparément tout en reconnaissant toujours la permanence du lien matrimonial et ce désir de restaurer la vie conjugale lorsque le jour viendra. Mais c'est fastidieux aussi, évidemment. Quand on prend ses clics et ses claques, il est difficile de réacquérir ce désir de rétablir la vie conjugale. Voilà, j'ai beaucoup causé, vous avez peut-être des questions.